Nietzsche, Le Gai Savoir, livre cinquième. Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien davantage si tu savais où je te mène. Turenne. Notre sérénité. Le plus important des événements récents, le fait que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien a été ébranlée, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premières ombres. Du moins, pour le petit nombre de ceux dont le regard, dont la méfiance du regard, sont assez aigus et assez fins pour ce spectacle. Un soleil semble s'être couché. Une vieille et profonde confiance s'être changée en doute. C'est à eux que notre vieux monde doit paraître tous les jours plus crépusculaire, plus suspect, plus étrange, plus vieux. On peut même dire d'une façon générale que l'événement est beaucoup trop grand, trop lointain, trop éloigné de la compréhension de tout le monde pour qu'il puisse être question du bruit qu'en a fait la nouvelle. Et moi encore pour que la foule puisse déjà se rendre compte de ce qui s'est réellement passé, pour qu'elle puisse savoir ce qui s'effondrera maintenant que cette foi a été minée, tout ce qui s'y dresse, s'y adosse et s'y vivifie. Par exemple, toute notre morale européenne, cette longue suite de démolitions, de destructions, de ruines et de chutes que nous avons devant nous. Qui donc, aujourd'hui, la devinerait assez pour être l'initiateur et le devin de cette énorme logique de terreur? Le prophète d'un assombrissement et d'une obscurité qui n'eurent probablement jamais leur pareil sur la terre. Nous-mêmes, nous autres, devins de naissance, qui restons comme en attente sur les sommets, placés entre hier et demain, haussés parmi les contradictions d'hier et de demain. Nous autres, premiers-nés, nés trop tôt du siècle à venir. Nous qui devrions apercevoir déjà les ombres que l'Europe est en train de projeter. D'où cela vient-il donc que nous attendions nous-mêmes, sans un intérêt véritable et avant tout sans souci ni crainte, la venue de cet obscurcissement? Nous trouvons-nous peut-être encore trop dominés par les premières conséquences de cet événement? Et ces premières conséquences, à l'encontre de ce que l'on pourrait peut-être attendre, nous apparaissent nullement tristes et assombrissantes, mais au contraire, comme une espèce de lumière nouvelle, difficile à décrire, comme une espèce de bonheur, d'allègement, de sérénité, d'encouragement, d'aurore. En effet, nous autres, philosophes et esprits libres, à la nouvelle que le Dieu ancien est mort, nous nous sentons illuminés d'une aurore nouvelle. Notre cœur en déborde de reconnaissance, d'étonnement, d'appréhension et d'attente. Enfin, l'horizon nous semble de nouveau libre, en admettant même qu'il ne soit pas clair. Enfin, nos vaisseaux peuvent de nouveau mettre à la voile, voguer au-devant du danger. Tous les coups de hasard de celui qui cherche la connaissance sont de nouveau permis. La mer, notre pleine mer, s'ouvre de nouveau devant nous, et peut-être n'y eut-il jamais une mer aussi pleine. De quelle manière, nous aussi, nous sommes encore pieux? On dit à bon droit que dans le domaine de la science, les convictions n'ont pas droit de cité. Ce n'est que lorsqu'elles se décident à s'abaisser à la modestie d'une hypothèse, d'un point de vue expérimental provisoire, d'un artifice de régulation, que l'on peut leur accorder l'entrée et même une certaine valeur dans le domaine de la connaissance. À une condition encore, c'est qu'on les mette sous la surveillance de la police. De la police de la méfiance, bien entendu. Mais cela n'équivaut-il pas à dire « Ce n'est que lorsque la conviction cesse d'être une conviction que l'on peut lui concéder l'entrée dans la science ?» La discipline de l'esprit scientifique ne commencerait-elle pas alors seulement que l'on ne s'émerveille plus de conviction ? Il en est probablement ainsi. Or, il s'agit encore de savoir si, pour que cette discipline puisse commencer, une conviction n'est pas indispensable. Une conviction si impérieuse et si absolue qu'elle force toutes les autres convictions à se sacrifier pour elle. On voit que la science, elle aussi, repose sur une foi et qu'il ne saurait exister de science inconditionnée. La question de savoir si la vérité est nécessaire doit non seulement avoir reçu d'avance une réponse affirmative, mais l'affirmation doit en être faite de façon à ce que le principe, la foi, la conviction y soient exprimés. Rien n'est plus nécessaire que la vérité, et par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de deuxième ordre. Cette absolue volonté de vérité qu'est-elle ? Est-ce la volonté de ne pas se laisser tromper ? Est-ce la volonté de ne point tromper soi-même ? Car la volonté de vérité pourrait aussi s'interpréter de cette dernière façon. En admettant que la généralisation « je ne veux pas tromper » comprenne aussi le cas particulier « je ne veux pas me tromper ». Mais pourquoi ne pas tromper ? Mais pourquoi ne pas se laisser tromper ? Il faut remarquer que les raisons de la première éventualité se trouvent sur un tout autre domaine que les raisons de la seconde. On ne veut pas se laisser tromper parce que l'on considère qu'il est nuisible, dangereux, néfaste d'être trompé. À ce point de vue, la science serait le résultat d'une longue ruse, d'une précaution, d'une utilité, à quoi l'on pourrait justement objecter. Comment ? Le fait de ne pas vouloir se laisser tromper diminuerait vraiment les risques de rencontrer des choses nuisibles, dangereuses, néfastes ? Que savez-vous de prime abord du caractère de l'existence pour pouvoir décider si le plus grand avantage est du côté de la méfiance absolue ou du côté de la confiance absolue. Mais pour le cas où les deux choses seraient nécessaires, beaucoup de confiance et beaucoup de méfiance, d'où la science prendrait-elle alors sa foi absolue ? Cette conviction qui lui sert de base, que la vérité est plus importante que toute autre chose et aussi plus importante que toute autre conviction. Cette conviction, précisément, n'aurait pas pu se former si la vérité et la non-vérité affirmaient toutes deux, en même temps, leur utilité. Cette utilité qui est un fait. Donc, la foi en la science, cette foi qui est incontestable, ne peut pas avoir tiré son origine d'un pareil calcul d'utilité. Au contraire, elle s'est formée malgré la démonstration constante de l'inutilité et du danger qui réside dans la volonté de vérité, dans la vérité à tout prix. À tout prix. Hélas ! Nous savons trop bien ce que cela veut dire lorsque nous avons offert et sacrifié sur cet autel une croyance après l'autre. Par conséquent, volonté de vérité ne signifie point « je ne veux pas me laisser tromper », mais, et il n'y a pas de choix, je ne veux pas tromper ni moi-même, ni les autres. Et nous voici sur le terrain de la morale. Car on fera bien de s'interroger à fond. Pourquoi ne veux-tu pas tromper ? Surtout lorsqu'il pourrait y avoir apparence, et il y a apparence, que la vie n'est faite qu'en vue de l'apparence. Je veux dire, en vue de l'erreur, de la duperie, de la dissimulation, de l'éblouissement, de l'aveuglement. Et alors que, d'autre part, la grande forme de la vie s'est effectivement toujours montrée du côté des polytropoi les moins scrupuleux. Un pareil dessin pourrait peut-être ressembler, pour m'exprimer en douceur, à quelques donquichotteries, à une petite déraison enthousiaste. Mais il pourrait être quelque chose de pire encore. Je veux dire, un principe destructeur qui met la vie en danger. Volonté de vérité. Cela pourrait cacher une volonté de mort. En sorte que la question « Pourquoi la science ?» se réduit au problème moral. Pourquoi de toute façon la morale ? Si la vie, la nature, l'histoire sont immorales, il n'y a aucun doute. Le véridique, au sens le plus hardi et le plus extrême, tel que le présuppose la foi en la science, affirme ainsi un autre monde que celui de la vie, de la nature et de l'histoire. Et en tant qu'il affirme cet autre monde, comment ? Ne lui faut-il pas, par cela même, nier son antipode, ce monde, notre monde ? Mais on aura déjà compris où je veux en venir, à savoir que c'est encore et toujours sur une croyance métaphysique que repose notre foi en la science, que nous aussi, nous qui cherchons aujourd'hui la connaissance, nous, les impies et les anti-métaphysiques, nous empruntons encore notre feu à l'incendie qu'une foi vieille de 1000 années a allumé. Cette foi chrétienne qui fut aussi la foi de Platon et qui admettait que Dieu est la vérité et que la vérité est divine. Mais que serait-ce si cela précisément devenait de plus en plus invraisemblable? Si rien ne s'affirme plus comme divin, si ce n'est l'erreur, l'aveuglement, le mensonge. Si Dieu lui-même s'affirmait comme notre plus long mensonge. La morale en tant que problème. Le manque d'individus s'explique partout. Une personnalité affaiblie, mince, éteinte, qui se nie et se renie elle-même, n'est plus bonne à rien. Et, moins qu'à toute autre chose, à faire de la philosophie. Le désintéressement n'a point de valeur au ciel ni sur la terre. Les grands problèmes exigent tous le grand amour. Et il n'y a que les esprits vigoureux, nets et sûrs qui en soient capables. Les esprits à base solide. C'est une différence considérable. Si un penseur prend personnellement position en face de ses problèmes, de telle sorte qu'il trouve en eux sa destinée, sa peine et aussi son plus grand bonheur. Ou s'il s'approche de ses problèmes d'une façon impersonnelle, c'est-à-dire s'il les touche et ne les saisit qu'avec des pensées de froide curiosité. Dans ce dernier cas, il n'en résultera rien, car une chose est certaine, les grands problèmes, en admettant même qu'ils se laissent saisir, ne se laissent point garder par les êtres au sang de grenouille et par les débiles. Telle fut leur fantaisie de toute éternité. Une fantaisie qu'ils partagent d'ailleurs avec toutes les braves petites femmes. Or, d'où vient que je n'ai encore rencontré personne, pas même dans les livres, personne qui se placerait devant la morale comme si elle était quelque chose d'individuel, qui ferait de la morale un problème et de ce problème sa peine, son tourment, sa volupté et sa passion individuelle. Il est évident que, jusqu'à présent, la morale n'a pas été un problème. Elle a été, au contraire, le terrain neutre, où, après toutes les méfiances, les dissentiments et les contradictions, on finissait par tomber d'accord. Le lieu sacré de la paix, où les penseurs se reposent d'eux-mêmes, où ils respirent et revivent. Je ne vois personne qui osait une critique des évaluations morales. Je constate même dans cette matière l'absence des tentatives de la curiosité scientifique, de cette imagination délicate et hasardeuse des psychologues et des historiens, qui anticipent souvent sur un problème, qui le saisit au vol, sans savoir au juste ce qu'elle dit. À peine si j'ai découvert quelques rares essais de parvenir à une histoire des origines de ses sentiments et de ses appréciations. Ce qui est tout autre chose qu'une critique, et encore autre chose que l'histoire des systèmes éthiques. Dans un cas isolé, j'ai tout fait pour encourager un penchant et un talent porté vers ce genre d'histoire. Je constate aujourd'hui que c'était en vain. Ces historiens de la morale, qui sont surtout les Anglais, sont de mince importance. Ils se trouvent généralement encore de façon ingénue sous les ordres d'une morale définie. Ils en sont, sans s'en douter, les porte-boucliers et l'escorte. Ils suivent en cela ce préjugé populaire de l'Europe chrétienne, ce préjugé que l'on répète toujours avec tant de bonne foi et qui veut que les caractères essentiels de l'action morale soient l'altruisme, le renoncement, le sacrifice de soi-même, la pitié, la compassion. Leurs fautes habituelles dans leurs hypothèses, c'est d'admettre une sorte de consentement entre les peuples, au moins entre les peuples domestiqués, au sujet de certains préceptes de la morale, et d'en conclure à une obligation absolue, même pour les relations entre individus. Quand au contraire, ils se sont rendus compte de cette vérité, que, chez les différents peuples, les appréciations morales sont nécessairement différentes, ils veulent en conclure que toute morale est sans obligation. Les deux points de vue sont également enfantins. La faute des plus subtils d'entre eux, c'est de découvrir et de critiquer les opinions, peut-être erronées, qu'un peuple pourrait avoir sur sa morale ou bien les hommes sur toute morale humaine, soit des opinions sur l'origine de la morale, la sanction religieuse, le préjugé du libre arbitre, etc. Et de croire qu'ils ont, de ce fait, critiqué cette morale elle-même. Mais la valeur du précepte « tu dois » est profondément différente et indépendante de pareilles opinions sur ce précepte, et de livrer d'erreur dont il est peut-être couvert. De même, l'efficacité d'un médicament sur un malade n'a aucun rapport avec les notions médicales de ce malade, qu'elle soit scientifique ou qu'il pense comme une vieille femme. Une morale pourrait même avoir son origine dans une erreur. Cette constatation ne ferait même pas toucher au problème de sa valeur. La valeur de ce médicament, le plus célèbre de tous, de ce médicament que l'on appelle moral, n'a donc été examinée jusqu'à présent par personne. Il faudrait, pour cela, avant toute autre chose, qu'elle fût mise en question. Eh bien, c'est précisément là notre œuvre. Notre point d'interrogation. Mais vous ne comprenez pas cela? En effet, on aura de la peine à nous comprendre. Nous cherchons les mots, peut-être cherchons-nous aussi les oreilles. Qui sommes-nous donc? Si avec une expression ancienne, nous voulions simplement nous appeler impie ou incrédule, ou encore immoraliste, il s'en faudrait de beaucoup que par là nous nous croyions désignés. Nous sommes ces trois choses dans une phrase trop tardive pour que l'on comprenne, pour que vous puissiez comprendre, messieurs les indiscrets, dans quel état d'esprit nous nous trouvons. Non, nous ne sentons plus l'amertume et la passion de l'homme détaché qui se voit forcé d'apprêter son incrédulité à son propre usage, pour en faire une foi, un but, un martyr. Au prix de souffrances qui nous ont rendus froids et durs, nous avons acquis la conviction que les événements du monde n'ont rien de divin ni même de raisonnable, selon les mesures humaines, rien de pitoyable et de juste. Nous le savons, le monde où nous vivons est sans Dieu, immoral, inhumain. Trop longtemps, nous lui avons donné une interprétation fausse et mensongère, apprêtée selon les désirs et la volonté de notre vénération, c'est-à-dire conformément à un besoin. Car l'homme est un animal qui vénère, mais il est aussi un animal méfiant, et le monde ne vaut pas ce que nous nous sommes imaginés qu'il valait. C'est peut-être là la chose la plus certaine dont notre méfiance a fini par s'emparer. Autant de méfiance, autant de philosophie. Nous nous gardons bien de dire que le monde a moins de valeur. Aujourd'hui, cela ne paraîtrait même risible si l'homme voulait avoir la prétention d'inventer des valeurs qui dépasseraient la valeur du monde véritable. C'est de cela justement que nous sommes revenus, comme d'un lointain égarement de la vanité et de la déraison humaine qui longtemps n'a pas été reconnue comme telle. Cet égarement a trouvé sa dernière expression dans le pessimisme moderne, une expression plus ancienne et plus forte dans la doctrine de Bouddha. Mais le christianisme lui aussi en est plein. Il se montre là d'une façon plus douteuse et plus équivoque, il est vrai, mais non moins séduisante à cause de cela. Toute cette attitude de l'homme contre le monde, de l'homme principe négateur du monde, de l'homme comme étalon des choses, comme juge de l'univers qui finit par mettre l'existence elle-même sur sa balance pour la trouver trop légère. Le monstrueux mauvais goût de cette attitude s'est fait jour dans notre conscience et nous ne ressentons que du dégoût. Nous nous mettons à rire, rien qu'en trouvant l'homme et le monde placés l'un à côté de l'autre, séparés par la sublime présomption de la conjonction « et ». Comment donc ? N'aurions-nous pas fait ainsi, rieurs que nous sommes, un pas de plus dans le mépris des hommes ? Et par conséquent aussi, un pas de plus dans le pessimisme, dans le mépris de l'existence telle que nous l'apercevons ? Ne serions-nous pas, par cela même, tombés dans le soupçon qu'occasionne ce contraste ? Le contraste entre ce monde où, jusqu'à présent, nos vénérations avaient trouvé un refuge, ces vénérations à cause desquelles nous supportions peut-être de vivre, et un monde qui n'est autre que nous-mêmes, un soupçon implacable, foncier et radical à l'égard de nous-mêmes, qui s'empare toujours davantage de nous autres Européens, nous tient toujours plus dangereusement en sa puissance, et pourrait facilement placer les générations futures devant cette terrible alternative. Supprimez ou vos vénérations ou bien vous-même. Le dernier cas aboutirait au nihilisme, Mais le premier cas n'aboutirait-il pas aussi au nihilisme? C'est là notre point d'interrogation. Les croyants et leurs besoins de croyance. On mesure le degré de force de notre foi, ou plus exactement le degré de sa faiblesse, au nombre de principes solides qu'il lui faut pour se développer, de ces principes que votre foi ne veut pas voir ébranlés parce qu'ils lui servent de soutien. Il me semble qu'aujourd'hui, la plupart des gens en Europe ont encore besoin du christianisme. C'est pourquoi l'on continue à lui accorder créance. Car l'homme est ainsi fait. On pourrait lui réfuter 1000 fois un article de foi, en admettant qu'il en ait besoin, il continuerait toujours à le tenir pour vrai, conformément à cette célèbre épreuve de force dont parle la Bible. Quelques-uns ont encore besoin de métaphysique, mais cet impétueux désir de certitude qui se décharge aujourd'hui encore dans les masses compactes, avec des allures scientifiques et positivistes, ce désir d'avoir à tout prix quelque chose de solide, tandis que la chaleur de ce désir empêche d'accorder de l'importance aux arguments en faveur de la certitude, et lui aussi le désir d'un appui, d'un soutien. Bref, cet instinct de faiblesse qui, s'il ne crée pas les religions, les métaphysiques et les principes de toute espèce, les conserve du moins. C'est un fait qu'autour de tous ces systèmes positivistes s'élève la fumée d'un certain assombrissement pessimiste. Quelque chose comme la fatigue, le fatalisme, la déception ou la crainte d'une déception nouvelle. Ou bien encore, l'étalage du ressentiment, la mauvaise humeur, l'anarchisme exaspéré, ou, quels que soient les symptômes ou les mascarades résultant du sentiment de faiblesse. La violence même que mettent certains de nos contemporains, les plus avisés, à se perdre dans le pitoyable réduit, dans de malheureuses impasses, par exemple dans le genre patriotard, c'est ainsi que j'appelle ce que l'on nomme en France chauvinisme, en Allemagne Deutsch, ou bien dans une étroite profession de foi esthétique à la façon du naturalisme. Ce naturalisme qui l'emprunte à la nature et qui n'y découvre qu'à la partie qui éveille en même temps le dégoût et l'étonnement. On aime à appeler cette partie aujourd'hui la vérité vraie. Ou bien encore dans le nihilisme, selon le modèle de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans la croyance à l'incroyance jusqu'au martyr. Cette violence est toujours et avant tout une preuve d'un besoin de foi, d'appui, de soutien, de recours. La foi est toujours plus demandée. Le besoin de foi est le plus urgent lorsque manque la volonté. Car la volonté étant la passion du commandement, elle est le signe distinctif de la souveraineté et de la force. Ce qui signifie que, moins quelqu'un s'est commandé, plus il aspire violemment à quelqu'un qui ordonne, qui commande avec sévérité, à un dieu, un prince, un état, un médecin, un confesseur, un dogme, une conscience de parti. D'où il faudrait peut-être conclure que les deux grandes religions du monde, le bouddhisme et le christianisme, pourraient bien avoir trouvé leur origine et surtout leur développement soudain dans un énorme acte de maladie de la volonté. Et il en a été véritablement ainsi. Les deux religions ont rencontré une aspiration tendue jusqu'à la folie par la maladie de la volonté. Le besoin d'un « tu dois » pousser jusqu'au désespoir. Toutes deux enseignaient le fatalisme à des époques d'affaiblissement de la volonté et offraient ainsi un appui à une foule innombrable, une nouvelle possibilité de vouloir, une jouissance de la volonté. Car le fanatisme est la seule force de volonté où l'on puisse amener même les faibles et les incertains. Comme une sorte d'hypnotisation de tout le système sensitif et intellectuel en faveur de l'hypertrophie d'un seul sentiment, d'un seul point de vue qui domine dès lors. Le chrétien l'appelle sa foi. Dès qu'un homme arrive à la conviction fondamentale qu'il faut qu'il soit commandé, il devient croyant. Il y aurait lieu d'imaginer par contre une joie et une force de souveraineté individuelle, une liberté du vouloir où l'esprit abandonnerait toute foi, tout désir de certitude, exercé comme il l'est à se tenir sur les cordes légères de toutes les possibilités, à danser même au bord de l'abîme. Un tel esprit serait l'esprit libre par excellence. De l'origine du savant. Le savant en Europe tire son origine de toute espèce de classe et de condition sociale, telle une plante qui n'a pas besoin d'un sol particulier. C'est pourquoi il prend place, et essentiellement et involontairement, parmi les soutiens de la pensée démocratique. Mais cette origine se devine. Si l'on a un peu exercé son œil à découvrir et à apprendre sur le fait, dans un ouvrage ou un traité scientifique, Vidéosyncrasie du savant, chaque savant possède la sienne, l'on reconnaîtra presque toujours, derrière cette idiosyncrasie, l'histoire primitive du savant, sa famille et particulièrement le caractère professionnel et les métiers de sa famille. Lorsque le sentiment d'avoir démontré quelque chose que l'on a mené à bonne fin trouve son expression, c'est généralement l'ancêtre dans le sang et dans l'instinct du savant qui, à son point de vue, approuve le travail fait. La croyance en une démonstration n'est que le symptôme qui indique que l'on considérait de tout temps, dans une famille laborieuse, comme bon travail. Un exemple, les fils de greffiers et de bureaucrates de toute espèce, dont la tâche principale a toujours consisté à classer des documents multiples, à les distribuer dans des casiers et en général à schématiser, montrent, pour le cas où ils deviennent des savants, une propension à considérer un problème comme résolu lorsqu'ils en ont établi le schéma. Il y a des philosophes qui ne sont au fond que des cerveaux schématiques. Ce qu'il y avait d'extérieur dans la profession de leur père est devenu pour eux l'essence même des choses. Le talent à classifier, à établir les tables de catégories, révèle quelque chose. On n'est pas impunément l'enfant de ses parents. Le fils d'un avocat continuera à être avocat en tant qu'homme de science. Il veut, en premier lieu, que sa cause garde raison. En deuxième lieu, peut-être, qu'elle ait raison. On reconnaît les fils de pasteurs protestants et d'instituteurs à la certitude naïve qu'ils mettent, en tant que savants, à considérer leurs affirmations comme démontrées lorsqu'ils viennent seulement de les exposer courageusement et avec chaleur. Car ils ont l'habitude invétérée d'y voir ajouter foi. Chez leur père, cela faisait partie du métier. Chez le juif, au contraire, grâce à ses habitudes d'affaires et au passé de son peuple, se voir ajouter foi est ce qu'il y a de moins habituel. On peut vérifier ce fait chez les savants juifs. Ils ont tous une haute opinion de la logique, c'est-à-dire de la force contraignante des arguments sur l'approbation. Ils savent que la logique leur procurera la victoire, même lorsqu'il y a contre eux une répugnance de race et de classe, et qu'alors on les croira contre son gré. Car il n'y a rien de plus démocratique que la logique. Elle ne connaît pas d'égard aux personnes, et même les nez crochus lui paraissent droits. L'Europe, soit dit en passant, doit avoir de la reconnaissance à l'égard des Juifs pour ce qui en est de la logique et des habitudes de propreté intellectuelle. Avant tout les Allemands, une race fâcheusement déraisonnable, à qui, aujourd'hui encore, il faut toujours commencer par laver la tête. Partout où les Juifs ont de l'influence, ils ont enseigné à distinguer avec plus de sensibilité, à conclure avec plus de sagacité, à écrire avec plus de clarté et de netteté. Cela a toujours été leur tâche d'amener un peuple à la raison. Encore l'origine des savants. Vouloir se conserver soi-même, c'est l'expression d'un état de détresse, une restriction du véritable instinct fondamental de la vie qui tend à l'élargissement de la puissance et qui, fort de cette volonté, met souvent en question et sacrifie la conservation de soi. Il faut voir un symptôme dans le fait que certains philosophes, comme par exemple Spinoza, le poitrinaire, ont dû justement considérer ce que l'on appelle l'instinct de conservation comme cause déterminante. C'est qu'ils étaient des hommes en plein état de détresse. Si nos sciences naturelles modernes se sont à un tel point engagées dans le dogme spinozien, en dernier lieu et de façon la plus grossière avec le darwinisme et sa doctrine incompréhensiblement unilatérale de la lutte pour la vie, c'est probablement l'origine de la plupart des naturalistes qui en est cause. En cela, ils appartiennent au peuple. Leurs ancêtres étaient de pauvres et petites gens qui connaissaient de trop près les difficultés qu'il y a à se tirer d'affaire. Le darwinisme anglais tout entier respire une atmosphère semblable à celle que produit l'excès de population des grandes villes anglaises, l'odeur des petites gens, misérablement à l'étroit. Mais lorsqu'on est naturaliste, on devrait sortir de son recoin humain, car dans la nature règne non la détresse mais l'abondance, et même le gaspillage jusqu'à la folie. La lutte pour la vie n'est qu'une exception, une restriction momentanée de la volonté de vivre. La grande et la petite lutte tournent partout autour de la prépondérance, de la croissance, du développement et de la puissance, conformément à la volonté de puissance qui est précisément volonté de vie.